que ça vous surprend? Non, j'espère que non. Fait qu'on va se donner juste une petite minute pour la diapositive d'arriver sur notre écran. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer. J'aime bien travailler avec du visuel. Donc, si vous voyez un petit peu l'image qu'il y a là, je n'étais pas trop sûre c'était quoi, mais je trouvais que ça ressemblait bien à ce que je voulais exprimer dans le message que je vais vous amener ce matin. Donc, c'est un peu comme une explosion. C'est comme un feu d'artifice, mais on dirait que ce n'est pas tout à fait un feu d'artifice. Il y a peut-être de la couleur là-dedans. C'est quelque chose qui nous surprend. Pourquoi une explosion, en fait? Quand on pense à quelque chose qui explose, hein, quand on lance un feu d'artifice dans le ciel, le feu d'artifice, il est tout petit. Hein, ce qu'on a assez phénoménal, quelque chose qui nous surprend. Ça explose, là, tout d'un coup, waouh! Et on entend, si vous avez déjà vu les feux là, au Québec, hein, on voit ça au-dessus des chutes Montmorency, ou peut-être même l'été durant une fête de juillet ou la Saint-Jean-Baptiste en juin. Tout d'un coup, ou les Jeux olympiques, voilà même un meilleur exemple plus récent. Et tout d'un coup, on entend les gens « Oh! Ah! Wow! » Ils sont surpris pour quelque chose qui, finalement, dépasse un petit peu ce à quoi ils s'attendaient. Et la foi, elle est un petit peu comme ça. Elle est merveilleuse, elle est appelée à prendre de l'expansion. Donc, on commence avec quelque chose de petit et Dieu nous appelle à faire grandir notre foi. Et pour voir avec des opportunités aussi dans notre vie, où est-ce que notre foi peut prendre de l'expansion? Donc, comment Dieu dépasse nos attentes envers lui? On va voir ça dans un exemple de la parole de Dieu. Et vous comprendrez qu'en choisissant le thème de la foi ce matin, là, on ne peut pas voir tout ce qui traite de la foi dans la Bible. On a choisi un passage. J'ai choisi un passage ce matin, mais on commence aussi avec quelque chose de petit. Hein, une fraction de ce que les Écritures ont à nous dire par rapport à la foi. Donc, sans plus tarder, commençons, allons lire le texte. Et ce matin, on va lire le texte dans deux perspectives. Je vous explique. Si vous êtes plus ou moins familier avec la Bible, il y a quatre évangiles, donc qui sont quatre perspectives de gens qui ont marché avec Jésus ou qui ont transcrit les propos de gens qui ont marché avec Jésus. Donc, parfois, lorsqu'on lit dans les évangiles, si vous lisez les évangiles, vous allez dire, « Bien, voyons donc, ça me dit quoi cette histoire-là? Il me semble que je l'ai lu dans Matthieu ou il me semble que je l'ai lu dans Marc. » Effectivement, on a souvent les mêmes histoires qui nous sont racontées, mais parfois avec des détails différents parce que les gens se sont souvenus de quelque chose de différent l'un de l'autre. Peut-être qu'ils ont déjà lu le livre qui a été écrit avant eux, donc il y a beaucoup de gens qui vont émettre la théorie, par exemple, que ces livres-là, ils n'ont pas nécessairement la même datation. Donc, quand une personne va réécrire la même histoire, il va rajouter les détails dont il se souvient, par exemple, pour compléter. Ou, tout simplement, il y a peut-être des choses qui ont marqué une personne plus que l'autre, comme dans n'importe quel événement qu'on vivrait dans la vie de tous les jours. Donc, on va lire une histoire dans Marc, mais on va aller lire un petit peu de Matthieu aussi, sur la même histoire pour nous aider à avoir une vision plus globale de qu'est-ce que Jésus a fait dans cette histoire-là. Donc, allons-y. En espérant que vous allez être capable de lire, c'est dans Marc 9, les versets 14 à 29. Vous pouvez également tourner dans votre Bible virtuelle ou papier. Donc, lisons ensemble. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, c'est-à-dire Jésus et les deux ou trois disciples qui étaient avec lui, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Donc, probablement des pharisiens, des scribes, des rabbins, toutes sortes de gens de la loi. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. » L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Donc Jésus n'est pas content. Et on le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? »« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant courir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Et c'est là qu'on va voir un extrait du passage dans Matthieu 17. Donc, ce que Matthieu ajoute à ce texte-là, il dit ceci. « Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant, et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. » Et lorsque Jésus se retire avec ses disciples, nous voyons aussi des détails supplémentaires dans ce texte-là. Le texte dira, « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Rien ne vous serait impossible. Viens au secours de ma foi, dira le Père. Donc, on voit que d'un côté, on a Marc qui est plus frappé par l'appel à la foi du père de l'enfant qui est malade. Et d'un autre côté, on voit Matthieu qui semble focusser un petit peu plus sur l'appel à la foi des disciples de Jésus. Donc, deux événements qui se sont produits en même temps, ou sensiblement en même temps, mais deux manières dont les auteurs des évangiles ont été impactés par le texte. Ce matin, on parle de foi, on parle de guérison dans ce texte-là. Dans le cadre de ce texte-là, on parle d'une influence spirituelle qui a amené une maladie. Maintenant, juste pour vous rassurer, je ne suis pas en train de dire que chaque maladie qu'on a est nécessairement l'effet d'un démon ou quoi que ce soit du genre. On n'est pas appelé à avoir des démons partout nécessairement ou à être craintif à ce niveau-là. On va parler un petit peu plus de ces choses-là en continuant le message, mais je veux juste vous rassurer ce matin. Donc, prenez un grand respire. Si vous êtes un fan de films d'horreur, c'est pas de ce dont il est question ici, là. On n'est pas en train de voir deux puissances égales qui se confrontent ou d'imaginer des puissances spirituelles à l'œuvre nécessairement partout. Par contre, on ne veut pas nier cette réalité-là, que la Bible nous enseigne que parfois, il y a une influence spirituelle à des problèmes de santé physique. Donc, parlons un peu de la foi. Si vous voyez ces deux exemples-là ici, deux images différentes. On a parlé un petit peu de l'image de l'explosion, donc quelque chose qui est petit, qui prend de l'expansion, qui nous surprend. Mais dans l'Église, dans la vie de tous les jours, on peut également avoir la foi d'une autre manière. Si vous voyez cet arbre-là, est-ce que vous remarquez quelque chose par rapport à cet arbre-là? Qu'est-ce qui vous frappe? Il est penché, ouais, il est croche, ouais. Oui, il y a des branches plus d'un côté de l'autre. C'est un arbre près de où j'habitais à Rimouski. Donc, si vous ne connaissez pas Rimouski, Rimouski-Est, de là où je venais, je le surnomme mon quartier la capitale du vent. Parce qu'à Rimouski, dans ce coin-là, ils vendent. Quand ils ne vendent pas, tout le monde se regarde et fait comme « Ah! Ils ne vendent pas aujourd'hui! » Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme si, là, tout d'un coup, la normale des choses vient d'être changée. Mais cet arbre-là a poussé dans le même sens que le vent. Donc, il a poussé croche. Toutes ses branches, même, sont penchées d'un côté. Ce qui est intéressant, je l'ai posé une de ces mystérieuses journées-là où il ne ventait pas. Mais l'arbre continuait d'être croche comme s'il ventait. Et il était comme ça. Mais un arbre bien solide, bien ancré, bien enraciné. Ce que je veux vous dire par rapport à cette image-là, c'est que notre foi, elle peut être comme ça. Elle peut être bien solide, on peut être bien convaincu de notre affaire, mais elle est croche. elle n'est pas dans la bonne direction, notre foi. Elle est mal orientée. Et c'est un petit peu ce qu'on voyait ici hein, dans le texte. On voit des indications comme quoi peut-être qu'il y avait une mauvaise orientation à la foi, l'espace où on a placé notre foi. Et Dieu veut nous aider à placer notre foi au bon endroit, à être solidement enraciné en lui. Et ça, ça va vouloir dire que Dieu va nous faire sortir un petit peu de notre paramètre, de nos paramètres. Quand vous lisez la Bible, si vous avez lu la Bible d'un couvert à l'autre, vous allez vous être rendu compte de quelque chose, Dieu surprend. Dieu fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Dieu augmente la foi de des gens. Hein, ouais, Dieu, tu me dis de mettre mon bâton dans l'eau, puis on va passer. Oh, Moïse, tu sais, hein? Est-ce que vraiment Dieu va ouvrir la mer? Et des nombreux exemples. Et c'est comme ça aussi pour notre vie en tant que chrétien. On est appelé à laisser Dieu augmenter notre foi. Mais continuons un peu plus pour voir qu'est-ce qu'on peut remarquer dans le texte. Ce que Matthieu et Marc nous enseignent, c'est que notre incrédulité, parfois, elle offense un petit peu Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus n'est pas toujours en colère dans la Bible, ou il n'est pas toujours frustré. Mais il y a des moments où on semblerait qu'il y a des choses que les disciples font qui l'exaspèrent un petit peu. Ces disciples-là, il faut comprendre, ils avaient déjà vu Jésus faire de nombreux miracles. Et même de manière intéressante, ces disciples-là, Jésus leur avait déjà commandé plus tôt, si vous lisez, vous reculez dans Marc ou vous lisez dans, reculez dans Matthieu, d'aller et de guérir les malades, de délivrer les gens qui étaient sous oppression spirituelle. Et savez-vous quoi? Ils l'ont fait et ça a marché. Mais tout d'un coup, leur foi, elle a faibli. Est-ce que ça nous arrive, ça, d'avoir la foi qui faiblit? Peut-être de passer par des situations, peut-être que comme cet arbre-là que je vous montrais tout à l'heure, là, peut-être que vous avez été longtemps à l'épreuve, peut-être que vous avez notre foi. Tout d'un coup, on s'est laissé diriger par les circonstances autour de nous plutôt que par la parole de Dieu et la foi à laquelle il nous appelle. Donc, notre incrédulité, elle déplaît à Dieu. C'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Dieu nous aime, mais il n'aime pas notre manque de foi. Une bonne distinction quand même à faire. Ce que nous voyons aussi à travers les histoires de Marc et de Matthieu, c'est que autant celui qui veut recevoir la guérison que celui qui veut y contribuer, les deux sont appelés à avoir la foi. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, vous devez le prier avec foi, nous dit la parole de Dieu. Si vous voulez prier pour quelqu'un, faites-le avec foi, nous dit la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la foi dépasse les limites prévisibles de nos attentes humaines. C'est-à-dire qu'un peu comme cette fusée-là qui va dans le ciel et qui explose en feu d'artifice, notre foi, elle fait un petit peu la même chose dans notre cœur quand on voit Dieu à l'œuvre. Et peut-être vous aurez vécu ça dans votre marche avec le Seigneur, c'est que tout d'un coup, wow, je savais pas que Dieu pouvait faire ça dans ma vie. Je me réjouis de voir comment Dieu a organisé peut-être les circonstances autour de moi, comment Dieu a déjà préparé le terrain pour moi dans ce domaine-là, comment Dieu a été à l'œuvre. Et c'est ce que nous rappellent Marc et Matthieu. Marc nous dira « Tout est possible à celui qui croit ». Et Matthieu, si vous aviez la foi comme un petit grain de moutarde, un grain de moutarde, c'est vraiment petit. Rien ne vous serait impossible. Donc Dieu comprend. Dieu comprend que notre foi, elle se vit avec des doutes. Notre foi, elle est mise au défi. Si vous me dites ce matin, moi, ma foi, elle est super grande, puis elle est jamais, je ne vis jamais de doute, je vais vous dire, je suis un peu sceptique. J'en doute. Et vous comprendrez que ça fait partie de la foi ou de l'expérience de toute personne qui cherche à connaître Dieu. On cherche à connaître Dieu, on veut le voir à l'œuvre, on le prie. Mais notre foi, elle est aussi mise au défi. Notre foi est grandie alors qu'on accueille et qu'on navigue ces doutes-là. Mais Jésus nous demande d'en avoir un petit peu, de l'inviter. Mais on parle de cette vie en ce moment des doutes. Surtout quand on parle de cette
ce sujet-là, la guérison divine. On parle de la délivrance d'oppression spirituelle. Ça peut amener toutes sortes de sentiments, hein, toutes sortes de doutes, toutes sortes de questions. Et c'est normal. Mais je voudrais vous inviter ce matin à considérer ces doutes-là un petit peu avec moi. On va en faire un petit survol très bref. Et je veux qu'on puisse réfléchir un petit peu ensemble à comment, des fois, on est comme cette arbre-là qui est planté pas tout à fait dans la bonne direction parce qu'on a été soumis à des grands vents, donc des épreuves, des situations qui ont donné peut-être une orientation différente à notre foi. Regardons ensemble. Donc, le premier point ici, on voit ceci. Hein, peut-être vous vous dites, si j'espère, je pourrais être déçue. Hein, comme le père de l'enfant, il dit, si tu peux, là. Tu sais, Jésus, juste si tu peux, là. Hein? Il a vu que les disciples n'étaient pas capables, eux autres. Fait que sa foi, peut-être, cet homme-là, probablement que s'il s'est déplacé pour aller voir Jésus, c'est qu'il avait de la foi. Il s'est dit, Jésus, ses disciples, ils ont déjà guéri du monde, pourquoi qu'ils ne guériraient pas mon garçon? Et là, il arrive, puis les disciples ne sont pas capables de le guérir. Imaginez-vous donc comment ils devaient se sentir. Donc là, il dit à Jésus, si tu peux, là. Donc, son expérience, son niveau de foi, hein, il est affecté par sa peur, par sa déception passée. Peut-être que c'est la même chose pour vous. Peut-être que vous avez déjà prié Dieu et Dieu n'a pas répondu de la manière dont vous vous attendiez. Peut-être que vous avez prié et ce n'est pas le mieux qui s'est produit, c'est le pire. Moi, je peux me souvenir d'un moment dans ma vie où j'avais peur que quelque chose arrive. Et si je peux vous donner une image pour l'émotion que j'avais à l'intérieur, c'est comme si ce que je voyais qui s'en venait, là, c'était comme une grosse vague de tsunami. Il y en a-t-il qui se souviennent du gros tsunami qui a frappé là, dans les années 2000? Ah, on a vu des images de ça, c'était assez impressionnant. Bien, je me sentais un petit peu comme ça. J'ai prié, Seigneur, si c'est possible, là, tu sais, tasse cette grosse vague-là de ma vie. Et c'est pas arrivé. J'ai passé à travers ce tsunami-là que j'attendais, que je voyais venir. Et ça peut amener, peut-être que vous aussi, vous avez vécu ce genre de choses-là, ça peut amener des questionnements. Ces questionnements-là sont légitimes. Mais est-ce que ces questionnements-là ou ces expériences-là devraient déterminer qui est Dieu? Ou est-ce que c'est sa parole qui détermine qui il est? Ou est-ce qu'on continue à l'inviter à nous expliquer, « Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? » Je sais que tu es souverain. Je sais que tu es capable. Mais je ne comprends pas. Et l'incompréhension fait partie de la vie de foi. Maintenant, peut-être, il y a d'autres formes de doute. Hein? Peut-être vous vous dites, ben si Dieu ne guérit pas immédiatement à travers moi, je vais avoir échoué. Fait que je suis aussi bien que pas prier pour les gens. Parce que si je prie pour eux, je leur donne un faux espoir. Et là, on laisse nos insécurités dicter notre destinée ou notre appel. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Hein? C'est pas mon orgueil. Hey, moi, je veux juste que si je témoigne, ça fonctionne. Je veux juste que si je prie, ça fonctionne. Quand on choisit de prier, qu'on fait appel, on le fait à des gens qui vivent des choses difficiles. C'est à Dieu qu'on fait appel. On le fait appel à lui en sachant que c'est lui qui est souverain. La puissance, ce n'est pas nous. Dieu peut se servir de nous, mais on n'est pas Dieu. Et Dieu nous appelle à faire ces pas de foi-là. Et qui sait, si vous prenez ce pas de foi-là, qui sait si Dieu ne va pas vous utiliser? Mais si vous ne le prenez pas, comment est-ce que Dieu peut vous utiliser? Une autre, peut-être, insécurité qu'on peut avoir... c'est celle-ci, hein? Si je ne suis pas guérie ou si je n'arrive pas à guérir à travers la prière, ben on va dire que je n'ai pas la foi, on va dire peut-être que j'ai du péché dans ma vie, on va dire peut-être que Dieu n'est pas vrai, que c'est juste des histoires de grand-mère, aucune offense aux grand-mères en passant. Donc, on se laisse influencer notre théologie, c'est-à-dire notre conception de Dieu. Elle est influencée par notre sentiment peut-être de culpabilité. « Hey, c'est vrai que j'ai déjà péché. Je ne sais pas si Dieu m'a vraiment pardonné. Hey, c'est vrai que que peut-être je vais avoir honte. J'aime pas ça, moi, avoir honte. J'aime ça montrer le côté de moi qui est plus fort. Je veux pas que les gens me jugent. Donc, on laisse notre conception de Dieu, on laisse notre service pour lui être affecté par notre peur de la honte, par peut-être notre culpabilité. Et Dieu nous appelle à dépenser ça. Donc, si vous voulez ce matin que votre foi, elle augmente, il va falloir apprendre à lutter contre la honte, à lutter contre la culpabilité. Il va falloir apprendre à mettre son orgueil de côté. Il va falloir apprendre à mettre ses déceptions, ses peurs de côté, à ne pas laisser les choses négatives que vous avez vécues influencer votre perception de Dieu. Et des choses négatives, on en a tous vécu. Hein, des déceptions, on en a tous eu. Des questions, on en a toujours eu également. C'est normal, ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Ça fait partie de notre cheminement spirituel aussi. En passant, le PowerPoint, il va être disponible sur le site de l'Église avec l'enregistrement aussi. Je voyais des gens prendre des photos. C'est toujours la même chose. Le culte du dimanche, le PowerPoint et l'enregistrement sont sur le site web. De cette manière-là, si vous avez besoin de prendre accès aux notes ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller ou réécouter. Fin de la parenthèse. Guérison et graines de moutarde. Donc, guérison est quelque chose de petit, une petite foi. Donc, ce que nous constatons dans ce texte également, c'est que Dieu ne me demande pas d'avoir une grande foi, mais une foi disposée à être augmentée. On a parlé de la graine de moutarde. Une graine toute petite, mais si elle est plantée, elle devient un grand arbre. Donc, un peu comme ce feu d'artifice-là qu'on voit sur l'écran, on commence avec quelque chose de petit que, si on utilise, devient quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la même chose avec notre foi. On prend la foi qu'on a, le niveau de foi qu'on a, on le met dans les mains de Dieu et Dieu la fait grandir. Dieu nous appelle à mettre même la petite foi qu'on a en lui. Et voici une prière peut-être qui peut nous diriger dans notre culte personnel, dans notre vie tous les jours. Une prière très simple, inspirée, ça c'est les paroles du Père à Jésus. Il dit « Je crois ». Viens au secours de mon incrédulité. J'ai cette petite graine de moutarde-là en moi, mais j'ai aussi beaucoup de doutes. Dieu, aide-moi à surmonter mes doutes. Aide-moi à mettre en terre cette petite graine-là pour qu'elle puisse pousser, donner quelque chose de plus grand. Dieu souhaite également que notre foi soit bien orientée. Vous vous souvenez de cet arbre-là qui était penché du mauvais côté? Et voici quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on a foi en notre capacité ou notre appel à être des vecteurs de guérison à travers la prière? Ou bien est-ce qu'on a notre foi à dire hey, « Moi, j'ai assez la foi pour être guéri aujourd'hui. » Ou bien est-ce que notre foi étant un Dieu qui est capable de guérir? Un Dieu qui a toute la puissance. Un Dieu qui a toute la souveraineté. Un Dieu qui a un plan pour ma vie. Que je vive de la maladie ou que je vive de la santé. En quoi est votre foi? Si votre foi est en vous-même, vous faites fausse route. Mais si votre foi est en Dieu, vous êtes sur le bon chemin. Parlant de mettre sa foi en soi-même, si je revenais un petit peu à mes disciples, ces disciples-là qui ont été appelés à guérir, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont été habiles à le faire, ils l'ont déjà fait. Certaines personnes supposent que la raison pourquoi Jésus leur dit « Non, non, cette influence-là spirituelle, elle s'en va seulement par le jeûne et la prière. » Des commentateurs vont supposer c'est qu'il n'avait pas prié. Il n'avait peut-être pas jeûné. Il était tellement confiant. « Hey, on y est arrivé! » Jésus nous a dit « Fais-le, on le fait, puis ça marche! » Et Jésus leur rappelle gentiment « Il faut que tu dépendes de Dieu. Il faut le jeûne. Il faut la prière. » La foi se vit, se développe. Voir Dieu à l'œuvre, on le voit alors qu'on est intime avec lui. Alors qu'on est intime avec lui. Mais il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives un petit peu quand on parle de délivrance, quand on parle de guérison. Vous aurez peut-être des idées qui vous viennent en tête. Malheureusement, peut-être des expériences aussi, hein, où on a passé dans un extrême ou dans un autre. Et je vais vous suggérer peut-être une petite phrase qui va nous aider à nous orienter quand vient la question de guérison. Donc, on veut savoir accepter la souffrance sans s'y résigner. Donc, se résigner à quelque chose, c'est dire, ben, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ça ne changera pas, puis c'est ça. Hein, par exemple, j'ai une maladie, Dieu ne m'a pas guéri, Dieu ne veut pas me guérir, je ne serai jamais guérie, c'est comme ça. Donc, on veut savoir accepter sans s'y résigner. Donc, parlons d'accepter la souffrance d'abord, hein, de dire « OK, je suis malade hein, » ou « OK, ça fait partie de ma vie, tout ça. » Il y a des gens qui vont dire au niveau de l'évangile de prospérité hein, qu'on peut parfois tomber dans un extrême où « Je vais prier pour toi, c'est sûr que tu vas être guéri immédiatement parce que j'ai un don de guérison, puis en gros, Dieu n'a pas le choix de te guérir maintenant. » Hein? Je te le promets. Et dans certains cas, donne-moi tant d'argent. On a vu des extrêmes, des scandales de ce côté-là. Ça ne marche pas comme ça. Hein? On suit Dieu, soumet à sa volonté, comme nous dira un Pierre. Donc, un Pierre ne parle pas spécifiquement de la guérison ou de la délivrance, mais ça nous parle de l'attitude du chrétien dans la souffrance. Et c'est ce passage-là qui nous dit qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, je sais que Dieu est capable de guérir. Je sais que Dieu veut guérir. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, ça va être dans l'éternité. Mais je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui tiens les rênes. Tout m'est possible par la foi. Rien ne m'est impossible, mais je ne suis pas Dieu. Donc, la ligne est quand même mince, hein, si vous l'entendez. Donc, on ne vit pas dans le déni de notre condition. Et on sait que Dieu peut se servir même de notre condition comme la maladie, pour se glorifier. Et là, je vous renvoie au texte de Jean, hein, où est-ce que Jésus, ses disciples viennent et disent « Hey, ce gars-là, il est malade, là. C'est-tu parce que, genre, lui, il est pécheur ou c'est parce que c'est ses parents qui ont péché? » Jésus est comme « Hey, guys, vous n'avez pas compris, là. Vous n'avez vraiment pas compris. » Il dit « C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. » Donc, c'est bizarre, c'est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu permet que quelqu'un soit malade pendant un certain temps? Mais Jésus nous ouvre une parenthèse et nous dit, non, même les difficultés, même les souffrances peuvent servir à l'avancement du royaume de Dieu, peuvent servir à la vie spirituelle aussi de cette personne-là. On ne sait pas quel était son état. Donc, le Seigneur a fait quelque chose à travers même la maladie et c'est la même chose. Dieu peut servir de vos épreuves, de vos souffrances pour faire quelque chose de beau. Maintenant, d'un autre côté, je dirais qu'on a l'autre extrême. Et j'ai la crainte de vous dire que cet extrême-là est peut-être un peu plus populaire dans les églises. Je l'appelle l'évangile de pauvreté. Donc, en gros, Dieu n'est pas capable de rien faire, il faut que tu l'acceptes. Donc, on est vraiment comme dans la résignation. Dieu guérissait, là, mais ça, c'était juste dans le Nouveau Testament. Là. Aujourd'hui, Dieu ne fait plus ça, là. Dieu répondait à la prière de ces gens-là avant, là, mais ça, c'est juste dans la Bible. Là. Aujourd'hui, là, Dieu ne fait plus ça. Donc, désolée ce matin, si c'est l'endroit où vous vous situez, je vais vous appeler à peut-être vous re-questionner de ce côté-là. La parole de Dieu va nous dire que guérir les malades par la prière est encore un commandement d'actualité. Donc, à la fin du livre de Marc, hein, quand Jésus dit « Allez proclamer l'Évangile par toutes les nations, faites des disciples », tout le monde est d'accord qu'on est supposé de faire ça? Oups! Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « guérissez les malades ». Oups! On veut prendre une partie, mais pas nécessairement l'autre. Donc, ça fait partie des commandements d'actualité. Et on le voit aussi dans le livre de Jacques, où il va être commandé à l'Église de prier pour les malades. Donc, on prie encore pour les malades aujourd'hui dans l'Église parce qu'on croit qu'on a un Dieu qui est encore capable de guérir. On croit qu'on a un Dieu qui est encore capable de libérer les gens qui sont aux prises avec toutes sortes d'oppressions aussi. Donc, on croit à un Dieu qui est encore capable. Et c'est la même chose, hein, le fait de recevoir la guérison est encore une promesse pour nous. Dans ces mêmes passages-là, on le voit, et le malade sera guéri. Donc, il y a encore, Dieu veut encore te guérir toi aussi. Donc, si ce matin, tu viens et tu te dis, « Moi, j'ai perdu espoir que Dieu puisse faire quelque chose pour moi », je t'invite à demander à Dieu de faire augmenter ta foi, à soumettre devant lui ton désir de guérison, ton désir de libération. Ai-je comme enfant de Dieu de rechercher sa guérison? Mais passons à une histoire. J'aime bien les histoires. Est-ce qu'il y en a qui aiment les histoires ici ce matin? Oui? Je vous conte une histoire. Elle n'est pas dans la Bible, au cas où vous n'auriez pas deviné, là, en voyant l'image de l'ambulance et du sauveteur sur l'écran. Donc, l'histoire va comme si. Il y avait un jour un homme très riche, pas un millionnaire, là, un milliardaire. Il avait tellement d'argent qu'il ne savait plus quoi en faire. Cet homme-là décide qu'il va à la piscine municipale extérieure. Un peu surprenant pour un milliardaire, vous me direz. Mais bon, il voulait que sa petite fille elle puisse vivre aussi en contact avec des gens, avoir une expérience normale de la vie. Donc, ils s'en vont à la piscine. Lui, sa fille, son épouse reste à la maison avec les autres enfants. Une petite sortie père-fille. Mais pendant qu'il est en train de répondre à ses courriels sur son téléphone intelligent, parce qu'évidemment, s'il est milliardaire, c'est que c'est un homme très occupé, sa petite fille qui est dans l'eau, elle manque se noyer. Mais voilà que le sauveteur, lui, c'est sa job de watcher les enfants. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans l'eau, va sauver la petite. Et là, le père qui, visiblement, se rend compte de quelque chose parce que ça crie, puis il y a toutes sortes de brouhaha autour de lui, il voit le sauveteur, puis il fait comme oh, « Merci. Merci d'avoir sauvé ma petite fille. Tu sais pas à quel point je suis reconnaissant. » Il dit « Dis-moi qu'est-ce que tu as besoin, là, puis n'importe quoi, je te le donne. » Et le sauveteur lui dit « Écoute, j'ai pas pu prendre ma pause dîner aujourd'hui. T'irais-tu me chercher un Big Mac au McDonald's? » Le milliardaire lui dit « Absolument, je m'en vais chercher un Big Mac. Pas de problème. » Il revient, il lui donne son Big Mac. Il a même amené des frites puis un Coke avec ça. Et le sauveteur est bien content. Comment?
Un trio.
Un trio, exactement. C'est lâché lousse. Et donc, il a répondu à sa requête. Mais le pauvre milliardaire n'est pas au bout de sa souffrance. Parce que là, il rembarque dans son auto. Vous comprendrez qu'il ne laisse pas la petite se rebaigner encore. Là, il se dit, là, je viens de la réchapper, on va retourner à la maison. Et il embarque dans sa belle grosse Lamborghini rouge flash. Et il part comme ça sur le highway, sur l'autoroute. Mais là, boum, un accident, mon ami. Et là, il se fait rentrer dedans, sont pris dans l'auto. Et puis, il commence à paniquer. Hein, il voit sa petite, il dit « C'est ça, je ne suis pas capable de la sortir. » Lui, il est capable de sortir par la fenêtre. Hein, mais la petite est complètement jamais là. Mais voici qu'arrive à la rescousse l'ambulance. L'ambulance arrive à la rescousse. Évidemment, c'est leur travail. Hein, et ils sont là, ils sont prêts. Ils arrivent à sortir la petite, à la soigner. Et puis le père, ce grand milliardaire-là, est tellement reconnaissant. Et il dit à l'ambulancière, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi-le, là, je vais te remercier comme tu veux. » Elle dit, « Écoute, c'est bien gentil. Tu sais, en ce moment, ça va plus ou moins à la maison. On a un peu de problème avec nos sous. On a la difficulté à payer notre hypothèque. Mais tu sais, c'est pas vraiment ton souci à toi. Dans le fond, je suis juste contente de faire mon travail. » Mais là, surprise, quelques jours plus tard, hein, elle reçoit l'argent dont elle a besoin pour finir de payer sa maison. C'est une belle histoire. C'est pas une vraie histoire, évidemment. Mais si je vous demandais, si, mettons, l'ambulance, qu'est-ce que vous penseriez rencontrer le sauveteur et parler ensemble de ce monsieur-là, le milliardaire? Qu'est-ce que vous penserez que serait leur perspective de cet homme-là? Hein? Il a payé ton hypothèque? Moi, j'ai juste eu un Big Mac. Le trio. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Moi, j'ai juste eu un trio. Avoir su!
Mais peut-être l'ambulancière lui dira, mais tu l'as pas vu arriver dans sa Lamborghini? Est-ce que tu savais pas que c'est ce milliardaire-là qu'on le voit sur tous les panneaux, là? C'est lui qui est propriétaire de tous les blocs immeubles dans la ville, là. Notre foi, notre expérience de Dieu dépend de comment on met notre foi à l'œuvre. Est-ce que vous voulez voir Dieu faire des grandes choses dans votre vie? Commencez à prier pour des grandes choses. Attendez-vous à lui pour des grandes choses. Je me demande comment ce milliardaire-là se serait senti, hein, en disant, « Mais voyons donc, il me semble qu'un trio, un Big Mac, je lui donne un trio, mais il me semble que il aurait pu me demander plus. » Et c'est un petit peu ce qu'on voit Jésus faire, dire, « Jean, de peu de foi, ben voyons donc! Voyons donc! Un si grand Dieu, une si petite foi, une si petite audace pour son royaume. » Mettons Dieu au défi, frères et sœurs. Oui, ça se peut qu'on soit déçus. Ça se peut. Oui, ça se peut qu'on ait l'air ridicule des fois. Mais alors qu'on apprend à entendre sa voix par son Saint-Esprit, alors qu'on apprend à discerner aussi ce à quoi il nous appelle à prier, alors qu'on apprend à discerner là où il nous appelle à aller, on apprend aussi à le voir à l'œuvre. Si vous voulez vous tromper ce matin, hein, vous voulez vagabonder d'un côté ou de l'autre, si vous avez besoin d'errer, errez du côté de la foi. Personnellement, j'aime mieux entendre un chrétien qui a plus d'attente de Dieu qu'un chrétien qui en a moins. Pourquoi? Parce qu'on sert un grand Dieu. Parce qu'on sert un grand Dieu. Et que la Bible continue de nous montrer histoire après histoire après histoire après histoire qu'on a un Dieu qui surpasse nos attentes. On n'a pas un petit Dieu. Vous savez, parfois, j'ai partagé l'Évangile et j'ai partagé l'Évangile avec des gens qui m'ont dit parfois, « Ouais, mais ton Dieu, là, t'es même pas capable de le comprendre. » Ben, c'est parce que c'est Dieu. Si j'étais capable de tout vous expliquer ce que Dieu est, ça serait une idole. Ça serait une image de moi à ma hauteur. Parce que moi, je suis capable de me comprendre, en général. Je suis capable de relativement comprendre les autres êtres humains. OK. Mais Dieu, il n'a pas la même nature que moi. Il est plus grand que moi. Donc oui, il y a un mystère dans la foi. Et n'ayons pas honte de reconnaître qu'il y a un mystère dans la foi. On sert un grand Dieu. La Bible nous dit, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes voix sont au-dessus de vos voix. » Vous allez en comprendre une partie, mais pas toute. Donc, Dieu vient mettre la barre pour des attentes raisonnables vis-à-vis de lui. Oui, je le sais, que je vais prier un grand Dieu et que des fois, je ne comprendrai pas pourquoi il ne répond pas de la manière que je voudrais qu'il comprenne. Mais ça ne m'empêchera pas de croire en un grand Dieu. Et vous savez, vous voyez ici en bas le logo de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Notre Église appartient à la grande famille, si vous voulez, de l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et ce qu'on voit dans un de ces symboles-là, le symbole du pichet, ça représente Jésus, notre guérisseur. Donc, Jésus qui est encore capable de guérir. Ça fait partie de qui on est comme Église. On veut, par la foi, continuer de croire que ce même Jésus-là qui a guéri avant peut encore faire son œuvre en nous et à travers nous. Donc, ayons de l'audace. Mais comme je vous le disais plus tôt, hein, si on ne croit pas que Dieu peut faire des grandes choses, les chances sont qu'on ne le verra pas le faire. Je me souviens d'un frère pour qui, avec qui j'ai eu une discussion un jour. Et puis, moi, je crois que Dieu peut encore parler de toutes sortes de manières, incluant à travers des rêves. Et donc, je fais un rêve cette nuit-là. Et dans le rêve, je vois que ce frère-là vit quelque chose de spécifique. Il parle dans son mariage. Et puis, je prie pour lui, j'intercède pour lui, mais je lui parle aussi durant la semaine. J'ai dit, mon frère, voici qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve. Je veux que tu saches que j'ai prié pour toi. Puis, je ne sais pas si ça vient de Dieu ou pas. Hein, très humblement, ce n'est pas parce que tu fais un rêve que ça vient de Dieu, on s'entend, là. Mais si tu as besoin de te confier, si tu as besoin de quoi que ce soit, je veux juste que tu saches que je suis là. Et le frère me répond, « Wow!
C'est vraiment extraordinaire. C'est exactement ce que j'ai vécu cette semaine puis ce que j'ai ressenti. Les pensées de son cœur que j'aurais pas pu deviner. Il dit, t'as donc bien une bonne intuition. Je dis, non, attends un petit peu, là. J'ai clairement pas une intuition de ce niveau-là, là. Mais c'était pas une occasion de glorifier Dieu parce que cette personne-là croyait pas que Dieu peut parler dans des rêves. Donc, l'origine était humaine plutôt que divine. Donc, si vous voulez faire de grandes choses, priez pour ces choses-là. Priez pour tout ce que vous avez besoin dans votre vie. Et là, vous allez être capable de dire, « Ah ben oui, hein, j'avais prié pour ça. Voici, j'ai vu Dieu à l'œuvre. » Ou peut-être que vous n'aurez pas prié pour certaines choses. Hein? Et puis, il y a des choses qui vont vous arriver et vous allez dire, « Ah, ben tiens donc, ça ressemble à mon grand Dieu. » C'est un clin d'œil de Dieu. Ça ressemble à mon grand Dieu que j'ai vu agir de manière similaire dans la Bible ou dans la vie de mes frères et sœurs. Donc, notre foi grandit lorsqu'elle est exercée, lorsqu'elle accepte de sortir de ses paramètres. Et nos paramètres humains, ils sont petits. Hein, ils sont petits comme cette petite graine de moutarde-là. Ils sont petits comme cette petite fusée-là de feu d'artifice. Mais lorsqu'on laisse Dieu s'en servir, elle devient grande cette fois-là. Vous aurez peut-être entendu ce petit dicton-là dans le jargon populaire, et je l'ai traduit de l'anglais vers le français, mais ça dit tout simplement « Aim for the moon, and if you don't reach it, you'll land in the stars ». So, en gros, vise la lune, et si tu ne l'atteins pas, tu pourrais toucher une étoile. Donc, l'idée, c'est de viser haut, de viser loin, et même si on n'y arrive pas, il y a quelque chose de bien qui va en ressortir. Et c'est un petit peu comme ça dans notre foi. On prie de grandes choses de la part de Dieu. On cherche Dieu. On veut que notre foi augmente. Et peut-être que Dieu ne va pas répondre exactement comme vous avez prié. Mais vous allez voir de grandes choses quand même. Vous allez voir Dieu à l'œuvre quand même. Et ce sera peut-être pour un autre temps, mais juste une petite parenthèse ici. La prière, ce n'est pas juste mes désirs à moi, mes fantaisies à moi, mais c'est apprendre à connaître le cœur de Dieu, sa volonté, et prier en accord avec sa volonté. Sa volonté écrite dans sa parole, évidemment, mais aussi apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs et prier en accord avec ce que Dieu dépose sur nos cœurs aussi. Donc, la prière se vit en intimité avec Dieu. Je vous laisse peut-être sur votre faim ce matin. Je m'en excuse. Je vous l'ai dit au début, je vous ai mis en garde. C'est un grand thème qu'on a vu ce matin. Mais on va y revenir. Donc, dans 2 semaines, c'est moi aussi qui vais faire la prédication. Et on va aller un petit peu plus loin. On va voir 2 ingrédients pour faire mijoter notre foi, hein, pour faire grandir cette petite graine-là de moutarde, faire exploser cette fusée-là. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Autant Matthieu que Marc nous en parlent. Ils nous parlent du jeûne et de la prière, donc du rôle du jeûne et de la prière. Et dans 2 semaines, on va regarder ça ensemble. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais prendre une minute pour prier pour nous, afin que la parole de Dieu puisse pénétrer dans nos cœurs et que Dieu puisse vraiment faire son œuvre en nous, mais aussi à travers nous. Parce que ce n'est pas seulement pour nous que Dieu est à l'œuvre, c'est pour tout homme, toute femme, indépendamment de son niveau de foi, indépendamment de s'il s'identifie comme chrétien ou pas. Donc, prions. Éternel mon Dieu, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui constamment nous met au défi d'avoir une foi plus grande, d'avoir des attentes envers toi qui sont plus grandes que ce qu'on aurait envers un autre être humain. Cette parole, Seigneur Dieu, qui nous invite aussi à nous soumettre à toi, qui est un Dieu dont les plans sont souvent mystérieux, souvent difficiles à comprendre. Un Dieu qui, parfois, nous permet de vivre certaines épreuves, certaines souffrances et qui nous accompagne à travers elles. Mais Seigneur, on ne comprend pas toujours. Aide-nous, Seigneur Dieu, à d'une part maintenir une grande foi et d'une autre part d'accepter ta volonté. Aide-nous à vraiment garder ces deux choses-là en équilibre afin que notre vie de foi soit pour te refléter, Seigneur, qu'elle soit pour ta gloire, Père. Donc, viens, je te prie, agis en nous aujourd'hui, mais à travers cette semaine, pour que tu puisses vraiment ancrer ces vérités-là dans nos cœurs. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen.